Willie m'a dit tu veux rap sur le beat. Fume le canne, fume le beast, fume le encore, fume le beast. On a faim, on en veut plus, plus, plus. En petit marché, je veux pas de plus, plus, plus. Wow, wow, wow. Couché sur le divan pour ciné.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
À cet épisode numéro 206 de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et aujourd'hui, on fait retour donc sur une émission qu'on avait fait il y a plusieurs mois de cela. Je me souviens plus exactement de la date, mais donc on a attendu que la poussière redescende tranquillement sur King's Landing avant de faire retour sur la finale de Game of Thrones. Donc on est, je crois, 5 mois après la finale. Puis le premier épisode qu'on avait fait sur le sujet, on avait été coupé court dans nos élans et on a décidé de revenir pour continuer un peu l'analyse parce que on n'avait pas tout dit. Puis on peut faire ce qu'on veut ici à Pop en Stock, fait que on a décidé qu'on allait continuer de toute façon. Et pour l'occasion, en onde avec moi aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes dont deux qui étaient présentes et deux qui étaient absentes. Donc, je vous les présente à l'instant. Donc, à ma gauche, Régis Pierre Fieux. Salut.
Salut.
Hop, je t'entends-tu?
Ouais, test.
Ah, voilà.
Test, ouais, ça va, ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, super.
On est content de te revoir parmi nous. Parce
ouais,
que...
ouais, je fais des apparitions épisodiques.
Épisodiques dans nos épisodes. Mais aussi, t'étais parti une bonne partie de l'été, donc...
Oui, c'est pour ça. Là, je suis de rattaque.
Yes, on va pouvoir te revoir avec nous. Et t'as plein d'idées vraiment très pertinentes, donc je pense qu'on va te revoir bientôt dans nos studios à Pop en Stock.
Ça, c'est gentil.
Et ensuite, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, une qui était présente la dernière fois... Elisabeth Simpson.
Allô!
Allô, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui.
Ben j'étais là, puis j'ai beaucoup parlé, fait qu'aujourd'hui, je vais probablement beaucoup plus écouter, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir beaucoup de temps de glace pour exprimer mes réflexions concernant les morales philosophiques et politiques qu'on peut retenir de l'expérience de l'écoute de la saison 8 de Game of Thrones et de Game of Thrones en général. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là comme témoin du passé.
Oui.
Mais je serai plutôt surtout à l'écoute.
Bon, parfait. Parce que on continue le tour de table avec Pascal Laplante-Dubé, qui était là aussi la dernière fois, mais que t'as pas vraiment eu le temps de développer tes théories.
On commençait. Ça s'en venait.
Ouais, je crois que ça parlait d'animaux ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. On va reprendre exactement là où on avait terminé. Mais avant ça, j'aimerais présenter Éric Maziad. Salut.
Bonjour.
Tu fais ta deuxième apparition à Pop en Stock.
Oui.
C'est ça. La dernière fois, tu étais venu pour parler de Alita Battle Angel en mars dernier, si je me souviens bien, dans ce coin-là.
Très possible.
Oui. Donc, bienvenue pour cet épisode Part 2 Game of Thrones saison 8. Et donc, rapidement, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, là où on l'avait laissé, je vais faire un bref rappel. Merci à Elisabeth pour tes très précieuse note que tu m'as envoyée avant
l'émission. Ça fait plaisir.
L'émission. Donc, dans la première partie, vous aviez parlé du manque de présence féminine, ou de, en tout cas, il y a eu une mention à ce sujet-là, et c'est quand même vrai. Ensuite, vous avez parlé du documentaire de Last Watch. Et aussi, ensuite, vous avez entamé une critique assez bien développée, à mon avis, sur justement la déception que la plupart des gens ont eue par rapport à l'épisode et essayé de trouver c'était quoi les causes. Donc, il y avait Roxane Chartrand qui était là avec nous pour parler surtout d'écriture puis de la transformation de l'écriture
du
scénario. Ouais.
Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de l'auteur de l'article. Je crois que c'est une autrice. Ça se retrouverait sûrement rapidement. Mais c'était super intéressant justement parce que c'était sur la posture. En fait, qu'une des causes probablement de pourquoi est-ce que l'écriture nous semblait moins intéressante lorsque le matériel de la série commençait à se détacher du matériel du livre était dû au fait que au lieu d'avoir une posture d'écriture sociologique, c'était maintenant une posture d'écriture psychologique. Et c'est de ça que Roxane nous a parlé, c'était vraiment intéressant justement pour dire que ça pouvait expliquer aussi le fait qu'avant on tripait sur Game of Thrones parce que tout se pouvait, mais c'était quand même un univers complexe et que là tout d'un coup on revenait à un monde plus manichéiste et donc moins intéressant pour plus plusieurs d'entre nous qui étaient là à cet épisode-là, effectivement.
Donc, c'était déjà une des pistes que je trouve qui est quand même vraiment intéressante pour aborder aussi cette déception généralisée. On va en reparler aujourd'hui, mais d'un autre angle. Je vous tease un peu. Ensuite, il y a eu mention des erreurs de café Starbucks et de bouteilles d'eau. Évidemment, incontournable. Et on avait terminé donc avec... ta théorie, Elisabeth, sur justement les interprétations politiques et sociologiques qu'on peut faire de la série. Donc, les White Walkers, c'est les changements climatiques.
Mais en fait, c'est ça. Je pense que les White Walkers sont les changements climatiques. Ah, attends, c'est pas ça. Ensuite, c'était ah, je pense que c'est une critique de la dictature éclairée. Ouais, mais c'est tant pas ça. Puis c'est ça. Fait que c'était tout comme un ouin, c'est pas ça, jusqu'à se rendre justement à la conclusion que dans le fond, Bran était un leader transhumaniste. Et que c'est de là qu'il y a eu beaucoup de réflexions aussi de la part de d'autres panélistes de l'émission qui nous disaient, mais c'est quand même vrai que George R. R. Martin est un auteur de science-fiction à la base et qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire entre la littérature de science-fiction et Game of Thrones, des fois bien plus qu'avec la fantasy. C'était une réflexion qui avait été amorcée aussi en fin d'épisode. Et c'est pas mal là-dessus qu'on s'était laissé... lorsqu'on avait on avait parlé de ça et on était revenu un peu sur la question de l'écriture et c'est comme ça que l'épisode était pas mal.
Je t'arrête parce qu'il faut quand même faire attention au fait que la dernière saison, on sait pas si c'est celle de George R. R. Martin, donc on sait pas forcément si lui a décidé que Bran allait avoir le trône.
Ben tu as tout à fait raison, c'est quelque chose qu'on a discuté aussi justement sur qu'est-ce qui était la différence, mais on parlait on discutait comme ça gentiment et gaiement dans la bienveillance. Donc effectivement oui.
Mais si ces questions-là vous intéressent, les épisodes sont toujours disponibles sur le site de choc.ca et je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais reprenons là où on l'avait laissé, donc avec une fameuse phrase de Pascal qui disait...
Justement, parlons des animaux,
voilà.
Quelque chose comme ça. Donc, vous pourrez valider en allant écouter ce premier épisode-là si je me suis trompée ou je crois que je me suis trompée un peu dans ma formulation. Mais... oui, en fait, les considérations, les réflexions d'Elisabeth par rapport au transhumanisme et à Bran m'ont emmené à la façon dont le rapport avec les animaux, en fait, est dépeint, du moins dans la dernière saison ou au cours de la série en général, notamment parce que Bran a cette faculté de warg, donc de se transférer, de se fragmenter même en différents corbeaux. Donc, on ne sait plus exactement si c'est il maintient une. En fait, j'ai l'impression oui que probablement qu'il maintient quand même une identité à ce moment-là, mais quand même il y a tout un rapport à la fragmentation assez intéressant qui se joue. Et ça m'a amené à penser que c'est quoi les enjeux éthiques et moraux dans le warging, en fait? Je sais pas exactement. Pardon, je viens de m'étouffer. Comment décrire ça? Donc, comment, quand un être humain embarque dans la peau d'un animal, comment est-ce que cet animal-là, est-ce que finalement on s'attend à ce que cet animal-là accepte, ou est-ce que cet animal-là a quand même un droit de refus à ce niveau-là? Il me semble que du moins dans la série, c'est pas abordé. Dans les romans, il y a quand même cet enjeu-là qui joue à certains moments. Donc, si je me souviens bien, je crois au début du cinquième tome, on a ce personnage qui a wargué dans un animal et qui finalement, dont l'identité finit par devenir très diffus à travers le corps de cet animal-là. Donc, il finit par se perdre. Et par contre, il y a Odor qui n'a pas l'air à vouloir trop souvent, au début du moins, la façon dont Bran wargue dans Hodor, parce qu'il le fait quand même chez des personnages humains. Donc, sa réaction n'est pas... semble quand même une réaction de panique. Donc, il y a tout, à mon sens, il y a quand même un enjeu du consentement qui pourrait être intéressant à explorer, du moins au niveau de la question des animaux.
Mmh.
Oui.
Il y a aussi la question du fait que Bran devient finalement... Parce qu'en fait, toute cette question de work et tout ça est vraiment très ancienne quand on pense au mythe de Zeus chez les Grecs et qui pouvait s'incarner dans des chevaux pour aller faire l'amour à je ne sais quelle femme. On avait un petit peu ce délire-là. Donc en fait, est-ce que Bran ne devient pas... Et c'est pour ça que moi, personnellement, je le trouve terrifiant. Devient pas une espèce de dieu à la fin de la série. Et puis tout à l'heure, Elisabeth parlait du fait que je crois que tu avais mentionné le fait de dictature éclairée à un moment donné. J'imagine que c'est pour Daenerys. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que je disais, en fait, pour te remettre dans le bain, en fait, c'est que je disais que j'avais un plaisir, j'avais un plaisir lorsque je regardais des œuvres de pop culture d'y trouver des sens. Plus profond des fois qu'il n'y en paraît. Puis je me faisais la réflexion en fait que dans mon cercle proche et moins proche, il y avait quand même un appel à certaines personnes dans le radicalisme à des dictatures éclairées comme étant une solution en fait à l'échec de la démocratie. Et je disais en fait que Daenerys représentait ça, justement cette espèce de because she knows what's good, on va lui laisser prendre tout le pouvoir, mais dans le fond on s'était pas protégé de ce pouvoir-là. Donc c'était ça mon point.
Ouais. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, j'ai le sentiment qu'à la fin de la saison, on écarte deux choses traditionnelles d'un côté. Donc il y a la dictature éclairée dont tu parles, qui c'est juste. Et il y a aussi, bien sûr, la monarchie héréditaire qui est incarnée par Jon Snow, c'est-à-dire qu'on l'écarte aussi. Mm-hmm. Mais par contre, ce qu'on met en valeur, contrairement à une solution démocratique, qui d'ailleurs est moquée à la fin de la saison, et ça m'a beaucoup fait rire, c'est Sam qui propose, je pense. Hein. On devrait donner le droit de vote au peuple, et tout le monde se fout de sa gueule, c'était très drôle, je trouve. Mais la solution de secours et de finale est vraiment... terrifiante, je trouve, en donnant à Bran le pouvoir, parce que je trouve que c'est encore pire qu'une dictature éclairée, parce qu'il peut quand même warg n'importe où, il peut quand même t'espionner dans ta chambre en train de faire l'amour en étant un corbeau. Non, c'est le pire roi qu'on puisse imaginer, en fait. Donc on passe de deux types de dictature, entre guillemets, à une dictature totale, de quasiment d'un dieu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez.
Comme une dictature omnisciente. Là, à
omniscient, oui. Exactement. Un dieu omniscient, hein, c'est terrifiant, je trouve.
C'est ça, exactement. Un personnage qui, finalement, est partout en même temps, puis qui peut observer tout ce qui se passe.
Ouais, mais t'as pas tort avec le transhumanisme là-dessus, tu vois. Ça me fait penser à Minority Report, il pourrait presque dire bah moi je sais telle personne qui va faire un crime, et puis ça commence à aller vraiment.
La police du pré-crime.
La police du pré-crime, exactement, quoi.
Puis probablement qu'on pourrait donner justement, probablement que des gens qui auraient voté pour lui pourraient se défendre que quelqu'un qui a ce niveau de connaissance et de sagesse-là provenant justement de cette connaissance-là, puis là je faisais des liens avec d'autres personnes de l'univers de la littérature comme le Kwisatz Haderach dans Dune, où est-ce que ces personnes-là devenaient, puis c'est un peu le je pense le propos qu'avait Tyrion quand il disait oui mais il est tellement rendu plus haut que nous. Puis ça, ça revenait à ce que je disais sur le transhumanisme puis Isaac Asimov et la finale des robots, mais il est tellement rendu plus haut que nous dans certaines affaires qu'il va pas s'affairer à se vautrer dans des, justement peut-être dans du voyeurisme, des choses comme ça, parce qu'il est rendu un peu au-dessus de ça. Mais c'est quand même offrir la confiance à un être qu'on comprend pas, qui est la même chose qu'un AI à ce niveau-là.
T'sais. Et qui a une morale très limitée, hein, comme tu disais tout à l'heure, que le fait qu'il aille dans Odor sans son consentement, c'est quand même très limite.
Oui, c'est tout un rapport aussi à la verticalité. Donc, si on instaure un dieu en haut de nous, on n'est plus dans une horizontalité vers laquelle peut-être on essaierait de viser dans le cas de Sam avec son rapport à la démocratie.
En fait, on revient à la base, quoi.
Oui.
L'autorité est toujours la même, elle est toujours verticale dans Game of Thrones. Mais elle est plus héréditaire, en fait.
Ouais, mais en même temps aussi, elle est... il y a un pouvoir supplémentaire dans ce qui s'instaure dans cette verticalité-là, au sens où il peut justement work dans des êtres humains, work dans des animaux pour espionner.
En fait, est-ce que la fin est si positive que ça, finalement? Moi, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Avec le, enfin, le monde que va dominer Bran est un peu terrifiant, je pense.
Ça laisse ça ouvert, mais c'est quand même intéressant de voir que juste dans cette... Justement, on a placé ce personnage-là à cet endroit-là. Il y a toute une interprétation politique qu'on peut en faire. Puis je pense que, Pascal, tu voulais nous parler aussi de cette du potentiel politique de la fantasy. Donc, ça va t'amener ton petit bouquin.
Oui, en fait, j'ai lu dernièrement un petit essai, en fait, d'environ 70 pages de William Blanc qui s'appelle « Winter is Coming », donc une brève histoire politique de la fantasy. Donc, ce qu'il explique, en fait, c'est que, la fantasy aurait un potentiel politique, donc un potentiel de transformation des représentations, des façons de voir le monde, etc., etc. Il parle notamment de Tolkien et des impacts du Seigneur des Anneaux, notamment dans les années 60. Donc, les années 60, c'est un moment où il y a la fantasy... apparaît, si on veut, aux yeux du grand public, notamment parce que The Lord of the Rings est publié en format poche. Donc ça va lui donner beaucoup plus de visibilité. Et dans les années 60, donc, il y a une réappropriation par les étudiantes américaines du personnage de Frodon. Donc ils disent « Frodo lives », « Frodo est vivant ». Notamment pendant qu'ils sont en train de militer pour des considérations écologiques. Donc pour eux, en fait, ils voient dans Seigneur des Anneaux de Tolkien une forme de rejet de la modernité et de la société industrielle et valorisent le côté plus merveilleux, plus coloré qu'on laisserait de côté en valorisant cette industrialisation-là. Martin, qui est un fan de Tolkien et aussi un auteur de la contre-culture américaine, il s'oppose lui aussi à l'Amérique marchande et à la menace des droits sociaux et environnementaux. Et il va beaucoup s'impliquer dans ces mouvements. Donc, si j'ai bien lu, en fait, il faisait partie de ces étudiants qui militaient dans les années 60 avec le Seigneur des Anneaux en poche. Et par contre, chez Martin, donc quand il commence à écrire notamment, et un peu plus tard, le monde qu'il présente en fait est beaucoup plus noir, donc moins idéalisé. Donc c'est une espèce de monde qui dit « l'apocalypse est ici, on a atteint la fin de nos jours ». Et c'est ce qui a été interprété par beaucoup de personnes, donc... dont Elisabeth ici, qui s'inscrit dans un grand mouvement...
Écoute, moi qui pensais être si marginale, finalement, je n'étais qu'une parmi tant d'autres.
Tu fais partie d'une gang, vous êtes fort. Donc, l'interprétation, en fait, chez les fans qui disent que, en fait, Game of Thrones, c'est, oui, une métaphore des changements climatiques et que ça dit que si l'humanité est divisée, on ne pourra pas lutter contre ces changements-là quand ils vont arriver. Et ça fait depuis quand même plusieurs années. Et on peut dire, en fait, que Martin, quand on lui a posé la question, a dit que non, c'était pas dans son idée à la base. Donc, quand il a commencé à écrire A Song of Ice and Fire, c'était pas... les discours, du moins, sur les changements climatiques n'étaient pas aussi présents socialement à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fans, les professeurs, les journalistes, donc tout l'appareil critique a récupéré Game of Thrones et en a fait finalement un message politique. Donc on pourrait dire à ce niveau-là que Game of Thrones est vraiment passé dans l'imaginaire, donc dans un imaginaire des changements climatiques où la fin va nous tomber dessus si on n'est pas capable justement de se lier ensemble pour lutter. Donc c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant qu'Elisabeth apporte cette question-là et tout de suite après, je suis tombée sur le livre. Donc à chaque fois que je le lisais, je voyais Elisabeth écrit partout.
Fait que je vais le lire.
Mais oui, mais c'est vraiment intéressant de voir aussi comme à quel point c'est pas parce que l'auteur a décidé de le mettre dedans, mais c'est la manière dont on l'interprète aujourd'hui, surtout avec la diffusion massive de la série où il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement des gens qui aimaient la fantasy, qui ont commencé à écouter Game of Thrones et qui ont pu peut-être interpréter ça du récit lui-même.
Ben c'est comme le message politique de Lord of the Ring. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que l'anneau unique était le symbole du nucléaire, puis que dans le fond il fallait détruire et se débarrasser du nucléaire. Puis il y a des gens qui ont démenti cette théorie là de motivation d'écriture en disant mais ça fonctionne pas avec J.R.R. Tolkien a fait la guerre dans ces époques là, donc ça se pourrait quand même qu'il ait été comme connaisseur du nucléaire puis tout ça puis de ses risques. Puis tu sais, comme est-ce que cette récupération là devient importante, mais effectivement on veut pas non plus prêter des intentions à l'auteur si en plus l'auteur dit ce n'est pas ça que je voulais dire, parce qu'effectivement je veux dire A Song of Ice and Fire, moi je n'ai pas lu les livres, mais je sais que c'était comme plus dans les années 90.
Ouais, 91 je crois le début de l'écriture, 96 la publication du premier tome.
Ben voilà, fait que tu sais, je pense qu'il y avait des enjeux quand même au niveau écologique certainement, mais peut-être pas au niveau justement de la crise climatique qui se passe. Donc la récupération, la réception, je lance la balle à notre collègue de l'autre côté de la table, mais je veux pas prendre non plus je veux pas non plus fucker l'ordre des passages, mais effectivement la réception devient aussi importante que l'intention.
Ouais, mais il y a ça, il y a beaucoup d'interprétations, en tout cas pour être une personne dans l'étude littéraire. Puis vous le savez aussi bien que moi que des fois les auteurs ont des fois pas grand chose d'intéressant à dire par rapport à leur œuvre.
Puis tu sais, faut pas oublier que chaque auteur autrice est situé dans un contexte aussi, donc évidemment il va y avoir je veux dire, quand Martin, justement, a écrit ça, on commençait à en parler un peu. Quand D&D ont pris la relève, on en parlait d'autant plus. Donc oui, eux ont baigné dans ce contexte-là qui est peut-être inconsciemment influencé. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est au niveau, comme on l'a dit, de la réception. Donc qu'est-ce que les gens en font? Comment ils transforment ça? Comment ça passe dans un imaginaire social aussi?
Oui, définitivement. Mais c'est tout ça, ça a aussi rapport. Je sais pas si on veut transiter vers la réception tout de suite. Au pire,
je voulais bien rebondir un peu sur Tolkien rapidement. Je pense que, pour revenir à l'anneau, je pense que c'est un symbole de pouvoir. Ça a toujours été chez Tolkien. C'est vrai que Martin est inspiré de Tolkien, mais j'ai le sentiment que Game of Thrones s'écartait énormément du Seigneur des Anneaux, qui est quand même très manichéen. Il est très manichéen parce que déjà, il y a une mystique chrétienne dedans, donc forcément. Tolkien a besoin d'opposer le bien et le mal. Et le Game of Thrones, dans la dernière saison, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en fait, il revient vers ce manichéisme. On y échappait parce que Martin était aussi un grand fan des Rois Maudits de Maurice Druon, donc avec tous les complots politiques, il y avait vraiment des tonnes de schèmes labyrinthiques, des intrigues et tout ça. Et puis d'un seul coup, la saison 8, bim, on revient dans le manichéisme. Il y a la méchante, il y a les gentils. On n'a même pas d'explication sur pourquoi les White Walkers... en fait, c'est juste qu'ils sont méchants. Donc faut les tuer, c'est des orques en fait, enfin il y a aucune logique. Mais l'autre différence, c'est que et c'est peut-être pour ça aussi que ça a fait rager, je pense, c'est que la mystique qui était encore présente chez Tolkien et qui fait que l'œuvre était soit récupérée par les chrétiens, soit récupérée par la contre-culture hippie des années 60, a totalement disparu de Game of Thrones. C'est-à-dire toutes les notions de la prophétie avec Jon Snow, le fait que le warg et tout ça, toutes les choses les plus mystiques de la saison et de la série se sont écroulées, en fait, toutes les théories se sont écroulées, et je trouve qu'il n'y a plus rien de mystique qui reste. On se retrouve face à une série qui est juste manichéenne pour être manichéenne, et ça, c'est triste.
Mais c'est intéressant, parce que c'est aussi quelque chose qu'on parlait avant d'entrer en onde, bien avant, en fait, c'est que toute cette mystique-là entretient un rapport assez fort avec l'altérité, comme tous les aspects fantastiques le font en général aussi, parce que le warg, c'est justement, on quitte son corps pour aller vers un autre, qu'il soit un animal, un humain, mais c'est au moins, c'est une mise en contact avec l'altérité. Même chose avec les dragons, qui sont qui renaissent de leurs cendres, littéralement, dans l'histoire de Game of Thrones, mais aussi tout le truc des White Walkers. Au départ, la saison 1 est très fascinante parce que les White Walkers ont vraiment un pouvoir très inquiétant qui est mis de l'avant, c'est vraiment bien réalisé, là, comme ça fait très peur. Puis même chose avec les Direwolves, John puis la famille Stark qui entretient chacun un rapport assez spécial avec le Direwolf, puis c'est complètement délaissé à la fin de la saison. Puis comme tous ces rapports-là avec l'altérité qu'on délaisse pour justement du manichéisme humain à humain. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à propos de ça, Pascal, parce que c'était un peu quelque chose que tu m'avais parlé surtout par rapport aux dragons.
Oui, ben, en fait, pour revenir rapidement sur les White Walkers, c'est certain qu'il y a un rapport à l'altérité qui se joue là, notamment parce que dans le roman, ils s'appellent les autres, donc The Others. Donc, c'est déjà écrit dans le nom. Mais effectivement, on ne sait pas du tout, comme tu le soulignais, quelles étaient leurs intentions, même que... Bon, pendant notre écoute, éventuellement, on croyait... en fait, il y avait des votes. On prenait les votes pour qui allait gagner, finalement, la bataille de l'épisode 3. Puis on voulait que ce soit, finalement, les White Walkers. Totalement. Parce que ça, ça aurait été...
Ben oui.
Ça aurait été révolutionnaire.
Ben oui.
Oui, absolument.
Ah, les White Walkers, tu tues toutes. Ouais. Les quatre prochains épisodes, c'est comme une émission de feu de foyer.
Mais c'est ce que j'avais dit aussi au premier épisode qu'on avait fait sur Game of Thrones en juin. Je disais, pour moi, la meilleure fin que je souhaitais, que je fantasmais, c'était justement cette fin-là. Les White Walkers gagnent.
Totalement.
Puis on voit les peu de survivants peut-être souffrir jusqu'à leur mort certaine. Ou le poste, qu'est-ce qui vient après que les White Walkers gagnent? Est-ce que c'est un cycle? Est-ce que quelque chose d'autre? Puis ça aurait pu être intéressant aussi, mais là, il y avait rien.
Non, mais cette idée était bonne, c'est-à-dire que toutes les luttes de pouvoir qu'on a eues pendant 8 saisons, en fait, n'ont servi à rien.
Exactement.
Parce que la mort les rattrape tous.
Exactement.
Ils crèvent tous. Il y a quelques survivants qui prennent un bateau et qui s'en vont, puis c'est tout. Puis ça, j'adore aussi, je suis d'accord. Ouais.
Pas comme les vraies luttes de pouvoir, ça sert-tu vraiment concrètement à quelque chose?
Ben, à prendre le trône, mais là, ils n'auraient pas réussi. Donc, bon.
Non, c'est ça.
Mais tu sais, ça aurait été quand même très drôle que, justement, Cersei prenne le trône, puis là, ça pense très glorieuse, puis là, tout le monde meurt dans le nord, puis là, comme, ils s'en viennent jusqu'à elle, puis voilà.
Ça, elle pense qu'elle a touchable.
Fini.
Et puis en fait, non.
Ouais, c'est ça.
Ça aurait été bien.
Non, mon Dieu.
Mais c'est pas ça qu'on a eu. Ouais.
Ça aurait poussé encore plus loin l'analogie avec les changements climatiques.
Ben oui,
ah ben non, là, pour le certain. Coup, oui, ça aurait été. Ouais. Mais ça aurait été d'un nihilisme peut-être inacceptable, je sais pas.
Ouais, je sais pas comment les gens au niveau.
Les gens étaient sûrement pas prêts.
Non, c'est ça.
C'est possible.
En même temps, on n'était pas prêts à, voyons,
à ce qu'on a eu,
à la mort de Stark à la fin de la saison 1. Puis,
oui.
C'est pour ça qu'on dirait qu'on fantasme là-dessus, parce qu'on dirait que c'est l'essence de Game of Thrones, de genre nous faire des choses qui peuvent un peu détruire nos attentes. Là.
Oui.
Fait que,
cela dit, c'était le but de D&D. Hein, ils ont détruit les attentes à bien des égards. Hein.
Ouais.
mais pas forcément toujours dans le côté positif.
Non, puis dans le fond, pour revenir à ce rapport avec à l'altérité là, en fait, comme tu l'as mentionné, c'est ça, Megan, ça se joue aussi au niveau des dragons. Donc ce dragon là qui représente une forme d'altérité, si on veut, donc c'est un animal, il est difficile à comprendre, on sait pas trop s'il va nous bouffer, etc. Donc les Daenerys a quand même un lien particulier avec ces animaux là, mais ce qui m'a frappé, c'est la façon dont le lien se tisse par rapport à Jon, donc du côté de Jon, parce que bon, j'ai revisionné la dernière saison dernièrement, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des plans, Jon avait des échanges de regards avec Drogon que je ne savais pas comment interpréter. Donc, personnellement, je les aurais plus mis au niveau de Daenerys. Il me semble que ça aurait été normal qu'il y ait un échange de regards. Donc, c'est-à-dire, on se reconnaît, on se comprend l'un dans l'autre, mais c'est pas avec Dany que ça s'est passé, c'est avec Jon. D'où mon impression qu'il y avait ce transfert-là du lien avec le Direwolf, avec Ghost, vers le dragon. Lien qui se concrétise notamment par cette scène tout à fait...
Crève-cœur. Est-ce que tu parles de la scène quand il ne va pas saluer son loup?
Non, mais j'allais y venir un peu plus tard, mais oui, effectivement, je crois, Megan, tu le mentionnais tout à l'heure, cette scène-là qui a créé tout un mouvement.
Mais ça, c'est la marque de à quel point ce rapport-là était important, puis je pense que D&D avait juste pas catché à quel point c'était important, puis de la réaction qu'on a vue sur Internet, genre justice pour Ghost, puis donner au moins une tape sur le flanc avant de t'en aller. Là.
Non, c'est ça, il existe, il est là. Puis si on remarque quand même, les Direwolves disparaissent un peu dans les batailles, du moins pas nécessairement dans l'épisode 3, mais à la fin de la saison 7, je crois, dans Battle of the Bastards, Ghost est un peu évincé. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est notamment parce que les effets visuels, ça coûte cher. Donc, s'il fallait choisir, dans quoi est-ce qu'on les met? Dans les dragons qui volent épiquement puis qui bouffent tout le monde, qui brûlent une ville, ou dans un Dire Wolf qui
est ton meilleur ami depuis l'épisode 1, qui a toujours été là.
Et voilà. Donc, tu sais, c'est là qu'il y a un rapport avec les animaux quand même intéressant qui se tisse. Et,
Il y a toute l'industrie aussi qui rentre là-dedans, là, de ouais. comme « Ah, oh, on n'a pas d'argent pour ça.
» Oui, et puis on s'entend aussi que le dragon, c'est le symbole par excellence de la fantasy. Là. Tu veux faire la fantasy, mets un dragon sur la couverture ou dans... Pardon, j'ai tapé. Dans... je l'ai entendu résonner.
On l'a tous entendu.
Oui, je suis désolée pour les gens à la maison.
Mais c'était pas de cette scène-là que tu voulais parler, finalement. C'était,
non.
C'était de la scène, j'imagine, où Dany et John se promènent en dragon.
Oui, c'est ça. Où Daenerys a une espèce de rôle d'initiatrice, d'une certaine manière. Donc, d'une certaine... une espèce de bienvenue dans la famille. Un peu étrange, considérant ce que John apprend. C'est ça, exactement.
C'est ta tante!
C'est ça, ce que John apprend tout à l'heure. Et cette scène-là reprend différentes étapes que Sheridan, qui est un universitaire américain, a identifiées dans la structure narrative d'une œuvre qui parle de dragon riding, finalement. Là. Donc, la première étape étant on crée un lien avec l'animal. La deuxième étape, c'est l'envol. Et la troisième étape, essentiellement, c'est on s'affiche aux yeux du monde comme étant en lien, finalement, avec ce dragon-là. Mais on en avait discuté un peu aux Amazones sur Game of Thrones et ma collègue Marika, je crois, me faisait justement remarquer que ce lien-là qui se tisse entre Jon et Rhaegar n'est pas vraiment exploité. Mm-hmm. Donc, ça tombe un peu à l'eau. Donc, on sait que Jon chevauche le dragon. Après ça, il fait un petit commentaire comme quoi il peut plus chevaucher parce qu'il est blessé. Et ensuite, faut aussi souligner que les échanges de regards ne sont pas avec Rhaegar, mais avec Drogon. Mm-hmm. Ce que je trouve quand même un peu particulier. Donc, en même temps, il y a un brouillage, de la frontière entre l'humain et le dragon qui se joue par la reconnaissance mutuelle du regard avec Drogon, mais c'est pas avec le dragon avec lequel on s'attendrait. On s'attendrait peut-être que ce soit Daenerys qui ait ce lien-là avec le dragon, mais j'ai l'impression que sa relation aussi... La relation de Daenerys avec le dragon est quand même différente. C'est peut-être plus une relation maternelle.
Mm-hmm. Oui, littéralement.
Oui, c'est ça.
C'est le mother of dragon.
Oui.
Mais ça m'a vraiment surpris que le dragon, il crame pas à la fin. Là.
C'est à cause de tous ces regards-là. C'est à cause de ce lien-là qui se faisait dans l'arrière-scène. Cette scène-là où le dragon, il détruit le trône, j'ai trouvé super intéressante parce que je voyais dans les réactions du dragon qui comprenait bien plus que ce que je pensais, qu'est-ce qui se passait, puis c'était comme une décision consciente de faire ça, puis de sacrer son camp. Je trouvais ça intéressant.
Après, il faut pas oublier que Jon, c'est l'héritier normal, donc je pense que le dragon pouvait pas brûler son maître non plus. Là, il fait vraiment partie de... C'est un Targaryen, il pouvait pas le brûler, simplement.
Mais moi, c'est comme ça que j'interprétais les échanges de regards,
de
comme on reconnaît que t'as le sang qu'il faut.
Oui, c'est toi qui le sens, exactement.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que en discutant avec certaines personnes, puis là je vais repencher du côté de la réception encore une fois, c'est que c'est pas tout le monde qui a interprété ça, ce regard-là comme une espèce de, finalement comme j'ai dit, une reconnaissance. Certaines personnes pour eux ont vraiment vu ça comme finalement c'est un animal, un chien qui trouve ça très intéressant que sa mère est en train d'embrasser un monsieur ou que le dragon était très fâché que Daenerys meure et donc dans sa rage a détruit le trône puis John n'était pas dans le chemin à ce moment-là. Mais donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est que même au niveau de la réception, c'est pas tout le monde en visionnant l'épisode qui a reconnu cette altérité de l'animal-là. Et même quand j'ai fait la comparaison avec le chien tout à l'heure, c'est aussi dire que les dragons ne sont pas des animaux ou sont plus que des animaux, c'est aussi reléguer les animaux à quelque chose de peut-être moins conscient, moins important. Donc, c'est ça. Donc, le rapport à l'altérité m'intéresse tant dans la façon dont les images sont présentées, mais aussi dans la façon dont elles ont été reçues. Et là, je...
Ouais, mais ça me fait penser... j'ai oublié c'est qui le philosophe qui parle de ça, mais je pense que c'est Derrida. Mais tout ce rapport-là à l'altérité du regard retourné de l'animal vers l'humain, il y a tout un passage sur le fait qu'on comprend ou on prend la maîtrise de cette altérité-là lorsque... Là, c'est la comparaison, c'est avec un chat. Donc, lorsque le chat nous regarde, par exemple, si on est nu dans notre chambre, puis le chat nous renvoie le regard, puis il y a tout ce sentiment d'étrangeté-là de comme essayer d'analyser le regard de l'animal porté vers nous, puis de prendre la maîtrise, de prendre la maîtrise de cette étrangeté-là qui qui est retourné vers nous? Est-ce que c'est un regard conscient? Est-ce que c'est un regard passant? Est-ce que... Puis là, il y a toutes les questions qui émergent. Puis ça me fait vraiment penser à ça. Je suis pas mal certaine que c'est Derrida, mais j'essaie de trouver... ça me fait vraiment penser à ça. Puis je trouve que c'est bien... c'est bien dit et bien... comment tu le dis, mais aussi c'est bien montré de ce point de vue-là, parce que la scène où ce que John et Danny se french, puis il y a Drogon qui les regarde, c'est weird, là. C'est spécial. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils pensaient que c'était Bran,
oui,
qui warguait dans le dragon, puis qui regardait.
J'avais parce bien que... dit que c'était un mec bizarre, Bran.
Oui.
Parce que la saison 8, c'est juste lui dans sa chaise qui, comme, qui regarde
mais
tout le
monde.
Là. Ça pourrait être, ouais, une théorie aussi.
Puis c'est ça, c'est, ce regard-là de l'altérité, on le retrouve justement dans, quand ils sont à... Et j'ai oublié le nom de la ville, là, dans le nord.
Winterfell.
Oui, merci, à Winterfell, quand Bran est assis dans sa chaise, puis il fait juste comme fixer les gens.
Mais oui.
On sent cette altérité-là.
Il est déshabillé.
Mais en même temps, il est plus totalement humain, parce qu'il se considère plus comme un humain. Fait qu'il y a, tu sais, on voit que le rapport est là, puis il était présent, même si je sais pas si c'était voulu ou non.
Ouais, c'est un dieu, il a plus la même morale, oui, selon Zussion.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pour ça que les malaisants,
ouais,
aussi.
Puis c'est pour ça que le regard qu'il nous renvoie est porteur de sens, mais on n'arrive pas à prendre la maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire, là?
Oui, et puis c'est vraiment un regard vide, pas nécessairement vide, mais au moins blank, un regard qu'on ne peut pas lire.
C'est une caméra, quoi. En fait, Bran, c'est le système de surveillance chinois.
Avec les corbeaux.
Pour savoir si tu peux prendre l'avion ou pas, là. Ouais. Oui, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter à ce point de vue-là.
Non.
Non? Ben, je proposerais de transiter vers ta théorie, Régis, sur... Parce que, en fait, depuis tantôt, on parle de Drogon qui... C'est Drogon qui a détruit le trône, c'est ça, là?
Oui,
donc,
le fait fondre.
Ça m'a vraiment fait penser au mime qui sortait, là, donc, qui disait « Ah non, mais Drogon, pourquoi tu m'as pas tué? » Puis il dit « Ah non, mais c'est comme, je sais que c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est la recherche de pouvoir qui était faite
oui,
par... »
Oui, c'est ça, puis là, je détruis le trône, puis comme la symbolisation du pouvoir foucadien, puis là, ouais. Quoi?
C'est comme un long paragraphe d'analyse. C'est vraiment génial. Vous irez googler ça. Mais oui, pour aller vers justement Daenerys, Jon et le trône. Et d'après toi, pourquoi il ne devait pas avoir le trône?
Oui, en fait, moi je me suis posé la question dans le sens. Je me suis pas dit pourquoi Bran a eu le trône. Je me suis plutôt dit pourquoi Jon et Daenerys ne pouvaient pas avoir le trône. Alors en fait, j'ai une théorie qui fera peut-être un peu polémique, je pense. J'ai toujours considéré que Game of Thrones était une série, en fait, une saga très traditionnelle, qui empruntait vraiment à des œuvres classiques. Donc, j'ai parlé des Rois Maudits, j'ai parlé du Seigneur des Anneaux, on en a parlé en tout cas. Et en fait, elle est pas si bouleversante dans ses schémas, c'est-à-dire qu'elle va pas proposer quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait le classique de il y a la prophétie donc c'est forcément Jon Snow qui va gagner, ou alors le classique de bon bah il y a la femme conquérante donc c'est forcément elle qui va gagner. Mais en fait, à la fin, la dernière saison, ma théorie, c'est que la série, du moins pas la saga, hein, je précise, se plie à une lecture moderne de la conquête du pouvoir. En fait, on écarte Jon Snow parce que les prophéties, bah, finalement, c'est un petit peu, c'est un petit peu arriéré. On écarte Daenerys parce que bon, les femmes puissantes de type Cléopâtre, c'est un petit peu arriéré aussi. Mais par contre, on va placer des figures qui sont jeunes et qui sont modernes. Donc, Sansa, c'est Arya qui tue le j'ai oublié son nom.
Le Night King.
Le Night King, merci. Et c'est Bran qui monte sur le trône. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des jeunes, la nouvelle génération qui prend le pouvoir. En fait, et je trouve ça extrêmement moderne et très loin d'être traditionnel. Moi, je m'attendais à quelque chose... J'aurais aimé totalement, personnellement, que ce soit traditionnel et que ce soit Daenerys, soit Jon... Mais ils ont envoyé bouler tout ça en faisant un peu comme si c'était... Bah, ça, c'est le passé de la littérature merveilleuse. Voilà, il faut qu'on soit moderne. Et qu'est-ce que c'est être moderne? Je vais utiliser un mot qu'utilisait Philippe Murray, un auteur que j'aime beaucoup. Le jeunisme. Le jeunisme, c'est il faut mettre les jeunes en avant, il faut que la nouvelle génération soit en avant. Peu importe le prix, et c'est pour ça que la saison part vraiment dans tous les sens, je trouve, pour arriver à cet agenda-là, qui est presque un agenda idéologique. Quoi. Il faut dire que la nouvelle génération a plus à dire que les anciens, en fait. Qui avaient leur mérite, je pense. Jon avait son mérite, peut-être, ou alors on peut penser qu'il était inutile, ça c'est possible aussi. Daenerys avait énormément de mérite, je trouve encore plus. Et finalement, on met en place ouais, des jeunes, c'est ça. Mm. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est mon observation.
Mm. Non, mais c'est intéressant, justement, de le voir de ce point de vue-là, parce que comme tout ce... En fait, tout... montrait un peu que ça allait finir, justement. Soit Jon, soit Daenerys sur le trône. Il y avait comme... il n'y avait pas tellement d'ambiguïté à savoir si ça allait être... Ben, en fait, ça allait être quelqu'un d'autre que ces deux-là, puis c'est pas ça qui est arrivé, on l'a vu. Mais c'est intéressant de le voir, justement, du point de vue du jeunisme, comme tu
dis. Ouais, moi, je le vois du point de vue du jeunisme, ouais. Il faut mettre la nouvelle génération en avant.
Je me demande s'il y a un impact... comme pécunier qui vient avec ça aussi, tu sais, le potentiel de spin-off qui est plus important lorsque tu mets des personnages jeunes, des acteurs qui risquent d'être intéressés à revenir rapidement ou dans quelques années qui seront encore disponibles et encore vivants, contrairement à si, mettons, on avait mis des personnes plus âgées. Qui serait peut-être comme ou que, justement des personnes comme John Kit Harington, Emilia Clarke ou Peter Dinklage que bon ils seront peut-être intéressés mais ils seront peut-être plus disponibles. Et je me demande si le fait tu sais bon ce qu'on disait à l'épisode de Game of Thrones qu'on a fait en juin à Pop en Stock c'était que apparemment que D&D se sont fait dire par Martin voici je vous donne pas les détails, mais voici où sera tout le monde à la fin. Fait que John, il va être il va aller passer de l'autre côté du mur. Je sais pas s'il a spécifié qui allait être mort ou pas. Mais je me demande si justement le fait d'avoir fait cette espèce d'affaire-là, Arya, elle s'en va découvrir le reste de l'univers, ben c'est comme tout le monde l'a vu comme ben c'est un spin-off là, tu sais c'est un potentiel de spin-off immense.
Arya, clairement, ouais.
Ouais, elle part sur le bateau, là, puis elle dit on va aller découvrir des terres qui n'ont jamais été découvertes.
Arya l'exploratrice, oui.
Exactement. Là.
Non, c'est clair qu'il y a potentiellement des impératifs commerciaux derrière ça. Là.
Ben, peut-être, là, écoute, je sais pas. Là, je me dis, si mon but, c'est de. Parce que ça reste quand même le but. Oui, c'est des artistes, là, mais ça reste quand même un. Ils sont financés par des gens qui leur disent comme ouais, mais là. C'est notre vache à lait la plus importante, puis tu veux genre juste tirer la plug.
Elisabeth, tu peux le dire que Game of Thrones est une offre capitaliste, il n'y a pas de problème.
entre autres, mais c'est ça, je pense que quand même, ça serait. Je pense que c'est quasiment. Je le vois le meeting dans ma tête là, des producteurs qui disent comme faut moi que tu laisses une potentielle.
Non, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça, ouvrir le potentiel. Mais en même temps, je pense pas que c'est nécessairement incompatible. On peut écrire des histoires, puis ensuite. S'inscrire dans les impératifs économiques sans nécessairement que ce soit
absolument.
Une exigence de faire comme non là ça sera pas les vieux là qui vont gagner là, ça va être les jeunes parce qu'il faut les garder longtemps puis je pense pas qu'il va y avoir non plus 50 ans de spin-off de Game of Thrones là,
j'espère
je pense qu'on s'est déjà tanné aussi un peu.
Écoute on se tanne pas de Star Wars fait que tout est possible
mais il faut attendre 10 ans pour ça
Ah, les aventures d'Aria, l'exploratrice, pour les jeunes, non?
Oui,
là, c'est ça pour la deuxième.
À Disney Channel.
Le petit singe aussi.
Ben oui.
Ça prend ça, là. Comme dans Pirates des Caraïbes. J'ai juste moi qui tripe là-dessus.
Mais il y avait un truc qui était décevant, vraiment, et puis je pense qu'après, tu vas pouvoir parler de la réception, j'imagine. C'est que les gens, j'ai l'impression, étaient déçus, non pas par forcément la fin, c'est que Bran soit le roi, bon, à la limite. Mais c'est la façon dont ça a été amené, en fait. C'était n'importe quoi. C'est ce que je disais. On a le sentiment que pendant toute la saga, on est vraiment dans les codes du merveilleux traditionnel. Et puis pour coller à cet agenda-là, toute la dernière saison a vraiment envoyé bouler tout ce qui existait pour mettre Bran sur le trône, pour faire en sorte que Sansa ait le nord. Et encore, ça c'était plus logique peut-être. Et puis, Arya tue le Night King, ça c'est un petit peu bizarre aussi. C'est mon avis. Et je pense que les gens étaient plutôt déçus par la façon dont ça a été fait, vraiment. C'est pas pas la fin, quoi. Si on avait eu une bonne écriture, moi je pense que c'était pas une très bonne écriture.
Mais c'est ça, aujourd'hui même, j'ai vu un article d'un des producteurs de la série, je pense. J'ai complètement oublié c'est quoi son nom, là, mais qui avouait pour la première fois que ça semblait avoir été fait de façon rapide, un peu rushée. Puis que justement, c'est une histoire qui doit se développer. On est habitué aussi avec Game of Thrones d'une histoire qui se développe presque en temps réel. Puis déjà, je pense que depuis la saison 6, il commence à avoir de plus en plus d'ellipses. Puis on n'est pas habitué à ça. Puis il y a comme justement ces ellipses-là, elles n'ont pas lieu d'être parce que c'est une série développement de personnages. Tu peux pas faire une ellipse quand tu essaies de développer le caractère de tes personnages. Ou il faut que tu les fasses de façon mesurée aussi. Je pense que, en tout cas, ça c'était ma critique de l'écriture. C'était, tu peux pas faire une ellipse de 3 mois pour montrer une descente psychologique d'un personnage.
Ah oui, moi,
c'est comme, c'est juste incohérent.
Ouais, c'est ça, que Daenerys devienne folle, d'accord, mais
tu peux pas effacer les 3 mois où ça se passe, là.
C'est ça, puis il y a quand même eu des moments à travers toute la série où il y a une accélération du rythme, mais il y avait toujours après ces moments-là, un moment où est-ce qu'on s'arrêtait, on se posait, puis OK, on regardait comment les cartes étaient placées, quel pion était tombé, quels étaient les impacts, on se repositionnait, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, manquait. Donc, le dernier épisode aurait pu très bien être un ou deux autres épisodes de plus.
Mais après avoir parlé de spin-off et de notre insatisfaction par rapport à l'écriture, donc Eric, tu voulais parler justement de tout le phénomène qu'il y a eu après, je sais pas si c'était le cas sûrement quand vous avez fait la première partie,
mais il y a eu toute
la ribambelle de pétitions demandant la réécriture ou la republication, ou des gens qui se demandaient justement si George R. R. Martin allait changer la fin, faire un Full Metal Alchemist ou peu importe la série que vous voulez avec une fin alternative. Donc, je te laisse la parole à ce sujet-là.
Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de regarder ça, là, cette espèce de d'ébullition-là dans la communauté où ça finit par une méga pétition avec des millions de gens qui signent pour demander une réécriture. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant. T'sais. Dans le fond, moi, ça m'a amené à me questionner. Ben, premièrement, tu sais, pour moi, la dernière saison, comment je peux dire, j'ai été très déçu de la dernière saison, mais je suis quand même très satisfait de la dernière saison. Fait que, puis moi, tu sais, ben personnellement, moi, ça m'envoie plus en introspection, fait que j'essaie d'aller regarder, mais mon Dieu, pourquoi je suis déçu, puis pourquoi je suis satisfait, qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis c'est pas ce que je remarquais dans la communauté. Puis pour moi, comme réaction, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, ça s'apparente un peu à une sorte de psychose, si on veut, tu sais, où ce que... Comment dire?
Ce que tu disais, c'était le désir de réécriture, justement.
Ouais, ouais, c'est ça, le désir de réécriture. Pour moi, le parallèle que je fais, c'est comme... C'est un rejet de la réalité, tu sais. Dans le fond, ce que j'aimais faire, c'est un parallèle avec la vraie vie, tu sais. Je suis comme, hey, j'ai eu une année de marde, j'ai perdu ma job, ma blonde me lâchait, ça n'a pas d'allure, ma carrière, ça marche pas, faut que je me réoriente. C'est quoi cette année de marde-là? Réécrivez mon année. Pour moi, c'était ça comme réflexion. T'sais, quand dit tant que moi, quand il y a quelque chose qui se passe mal, puis que je n'ai pas vraiment l'option de demander ce qu'on réécrive la réalité, malheureusement, ben, je suis obligé de me remettre en question, de voir, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis déçu? C'est un exemple que j'aime bien regarder. T'sais, j'étais déçu de... Sur le coup, j'étais déçu de la finale avec Arya Stark, que je m'attendais à ce qu'elle utilise ses pouvoirs de face dancers, puis qu'elle aille assassiner la reine. Là. J'attendais juste ça. Puis ça s'est pas passé. Puis à la place, elle embarque sur un bateau, puis elle s'en va faire d'autres choses. Puis j'étais comme, mais c'est pas ça que je voulais. T'sais, j'étais déçu, tu sais. Mais il a fallu que je m'arrête, puis que je réfléchisse, que je comprenne pourquoi je suis déçu. Puis après ça... Ma relecture, suite à ma petite période de réflexion, c'est « Ah, ben finalement, tu sais, c'est comme son... Tu sais, elle a fait un choix de carrière, elle a étudié pour être un assassin. Finalement, ça n'a pas servi. Puis elle a choisi une autre carrière, puis elle s'en va se réaliser dans d'autres choses. Puis elle n'est plus prise par tous les Game of Thrones puis ces niaiseries-là. Fait qu'elle s'affranchit de tout ça, puis elle s'en va vivre la vie qu'elle veut vivre. » Puis finalement, j'aime ça, tu sais.
Ben oui, que Diane lui dise comme « J'ai vécu, moi, une vie... » de rancœur et de rechercher la vengeance, puis tu vois-tu où ça m'a mené. Puis tu sais, comme que là, justement, tu parlais des jeunes, là, tu parlais des jeunes, Régis, puis c'est ça, tu sais, c'est aussi de dire, comme là, t'as tout ton temps devant toi, là, veux-tu gaspiller puis devenir ce que je suis devenu, tu sais. Effectivement, c'est intéressant de le voir comme ça, mais que sur le coup, ça nous déçoit. Oui. Puis c'est ce qu'on faisait au premier... Je reviens encore au premier épisode. Je l'ai écouté un petit peu avant de rentrer en onde, c'est pour ça que c'est très frais dans ma mémoire. Okay. Mais le premier épisode, où est-ce qu'on disait justement que ce qui avait été super choquant dans cette réception-là, c'était qu'on a le droit à la critique, mais cette critique-là ne semblait pas éclairée, elle semblait réactionnaire, puis dans une espèce de je suis pas content, puis je suis pas content. Fait que si je suis pas content, c'est que c'est toi qui as fait quelque chose de pas correct. Au lieu de se questionner sur ben est-ce que c'est parce que c'est pas ce genre de d'histoire-là que je cherchais, qu'est-ce que je cherchais si c'était pas ça? Est-ce que c'est parce que je dans le fond, j'affectionnais plus les personnages que je pensais, puis leurs fins m'ont déçu? Mais au lieu d'être dans cette réflexion-là, comme tu parles, Eric, cette réflexion-là vers soi-même, ça a été un déversement de haine envers l'autre, parce que c'est le seul qui peut être responsable de ce qu'on vit, puisque c'est le seul qui peut être responsable de ce qu'on vit, puis qui nous a fait sentir mal, ben évidemment, cette personne-là, donc, est une mauvaise personne, tu sais. Ce qui est assez absurde quand on y pense, puis c'est pour ça qu'on faisait un appel à la bienveillance, puis à dire comme, hey, mais minute papillon, là, c'est pas ce que tu voulais, mais c'est quand même des années de travail, puis c'est quand même énormément de... Puis c'est ce qu'on parlait aussi, tu sais, que Sophie Turner, était quand elle a reçu ça, elle a dit comme, mais vous rendez-vous compte à quel point c'est méchant et impoli pour tous les travailleurs, tous les artisans de la série, parce que là, vous critiquez l'écriture.
C'est surtout absurde, c'est ouais. Ça. Là. Tu sais, parce que bon, tu sais, moi, je te parle d'un travail d'introspection, juste de se réacquérir. Tu sais, pour moi, le travail d'interprétation d'un œuvre comme ça, c'est un travail de création en soi. Tu sais, ton interprétation, ça n'a rien à voir avec l'auteur. Tu sais, ce qu'un œuvre t'apporte, c'est toi qui l'amènes. Puis c'est ce qui me fascine là-dedans. Puis quand j'écoutais la première épisode que vous avez fait, il y a plein de lectures avec que moi, j'ai pas vu ça du tout. Là. Tu sais, pour moi, les zombies, c'est la crise du H1N1. Là. On a peur, puis ah, c'est disparu. Tu sais. On s'en fout. Mais tu sais, vous avez fait des lectures super intéressantes avec le transhumanisme, avec R. Bran Oliva qui va devenir le gestionnaire de l'humanité. Il y a plein d'affaires avec l'intelligence artificielle. Puis moi, ça me fascine, c'est ça que je trouve intéressant, mais tu sais, ça prend une pause, puis tu peux pas... Je trouve ça facile de juste... Non. Tu sais, refuser la réalité puis demander une réécriture, ben...
Mais ça...
Il est là, le matériel, fait l'effort d'aller voir la chose. Tu peux aller chercher loin juste en disant, mettons que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont écrit, puis que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Tu sais, où il y a un... Il y en a plein qui étaient fâchés sur bon, j'ai oublié Daenerys qui tout à coup vire folle puis qui brûle la ville. Moi, je l'attendais depuis le début, ce truc-là. Pour moi, c'était pas surprenant, puis que ça se passe comme ça. J'ai vu des gens faire des trucs comme ça dans la vie, là, que c'est des gens que t'aimes puis que tu comprends, puis tout d'un coup ils font des choses horribles qui complètement contraire à tes valeurs, que tu t'attendais pas du tout. Mais...
J'espère que t'as vu personne brûler une ville.
Non, ben pas brûler une ville, pas nécessairement tuer des gens, mais tu sais. C'est quand même incroyablement choquant, puis ça te remet des remises en question profondes. Mais ça arrive, tu sais.
Ouais, c'est ce que je trouve intéressant, fascinant, en fait, dans ta démarche, c'est justement tout ce travail d'introspection qui ramène au fait que la façon dont tu reçois puis t'interprètes une œuvre, ça te renvoie surtout à toi-même, puis à ton cadre de référence, puis à c'est quoi tes schèmes, c'est quoi
tes attentes.
C'est quoi tes attentes, ton horizon d'attente. Et c'est ce qui semblait... bouleverser tant de personnes, c'est peut-être justement que ces schémas d'attente-là, cet horizon d'attente-là a été complètement renversé de toutes les manières.
Mais tu peux pas satisfaire des millions de personnes.
Non, absolument pas.
Non. En fait, je voulais faire une lecture un petit peu marxiste de la chose. C'est que j'ai l'impression que cette pétition, c'est vraiment un cas d'école de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on considère maintenant que l'art n'est plus l'art pour lui-même, mais l'art, c'est l'offre et la demande. En fait, on est vraiment dans l'économique. Quoi. J'ai payé pour regarder cette série, donnez-moi la série pour laquelle j'ai payé, s'il vous plaît. Quoi. C'est vraiment ça.
Ouais, mais c'est intéressant ça, parce qu'il y a aussi le fait que avant, c'est beaucoup les instances de production qui avaient tout ce pouvoir-là de comme, oh, mais vous allez payer pour n'importe quoi, fait qu'on va faire ce qu'on veut, puis de toute façon, vous allez acheter. Puis depuis que, justement, l'Internet a donné une voix à cette masse-là de fans, maintenant, ils ne gênent plus pour se manifester, pour faire des pétitions ou pour juste exprimer leur mécontentement. Fait qu'il y a comme un retour du balancier de quelque chose qui se tramait depuis le début de la culture populaire et de la culture marchande.
Tu sais, quand t'as pas de pouvoir sur ton gouvernement, que t'es pas dans une vraie démocratie, puis que tout ça, mais écoute, tu vois où est-ce que t'as du pouvoir, puis t'as peut-être du pouvoir à signer une lettre.
C'est déjà là-dessus, sur la culture, c'est vrai.
Mais dès le moment qu'il y a une forme d'écran, d'une certaine manière, là. Même tout à l'heure, avant d'entrer en onde, je parlais du rapport au cosplay. J'ai cosplayé en juillet dernier au Comic-Con Daenerys Targaryen, donc à peu près un mois et quelques après la fin de la série, si c'était à revisiter. Probablement je le referais, mais je m'attendais pas à ça. Le fait est que mon costume créait justement un forme d'écran, ou du moins de récepteur pour les commentaires des gens. Donc, ils me disaient ce qu'ils auraient aimé dire au personnage de Didi Hill, parce qu'en général, c'était beaucoup des hommes. Et j'en ai eu vraiment de toutes les couleurs. Autant j'ai eu « T'aurais dû finir sur le trône » ou « On t'aime, Dany » ou « C'était une très mauvaise fin, mademoiselle
». Donc, t'es devenu leur soupape.
Oui, d'une certaine manière. Puis il y avait quand même... Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y avait quand même beaucoup d'amour pour ce personnage-là qui avait... contre lequel les gens auraient pu facilement se retourner.
Parce que je pense qu'il y a un amour pour le merveilleux traditionnel qui est « j'aurais aimé que ce soit ma reine », voilà, parce qu'elle traversait tant d'épreuves, et puis elle était éclairée, comme disait Elisabeth tout à l'heure. J'étais prêt à vivre sous sa monarchie éclairée, quoi, quasiment.
Mais c'est drôle parce que on parlait de la semaine dernière, je pense, je parlais de noms geeks avec des amis. C'est des gens qui ont donné des noms geeks à leurs enfants. Semblerait-il qu'il y a une pétition sur les mères et les pères déçus d'avoir appelé leur fille Daenerys ou Khaleesi, oui. Parce qu'ils étaient comme, ben là, c'est quoi ça? Mais c'est comme, ouais, mais c'est quand même un beau gambling là, de donner le nom à un personnage qui n'est pas fini.
Ouais. Avant la fin de son arc narratif.
Ben voilà.
C'est charger ton enfant de toute une charge symbolique aussi et culturelle.
Peut-être que les livres vont rattraper le personnage, on sait pas.
On sait pas.
Mais Martin a dit qu'il voulait pas changer l'histoire. Donc,
ah ouais, hein, je pas, savais pas ça.
Ouais, non, il a dit qu'il y avait pas question de réécrire une autre fin, mais que...
Donc il assume que c'est sa fin à lui.
Oui, mais c'est ça. Mais j'imagine que ça va être... Il va y avoir plus de développement de personnages aller vers la
fin. C'est très décevant.
Sûrement que ça va éclairer d'une autre manière aussi cette fin-là qui était si décevante pour plusieurs...
Il aurait fallu qu'elle fasse comme Bandersnatch, chose qu'on aurait pu choisir. Est-ce qu'il peut flatter le chien ou on veut un dragon citerne qui peut détruire une ville? On peut choisir.
Ouais, c'est ça. Si tu flattes le chien, tu te rends pas à temps à King's Landing.
Après, il utilise les données pour faire son livre, tu vois, c'est ça.
Ah.
Ouais. Mais au final, tu sais, il y a juste 4 fins.
Oui.
On peut pas choisir vraiment qu'est-ce qu'on veut. On peut juste choisir dans qu'est-ce qu'il nous offre.
Comme la réalité.
Ouais.
Oh mon Dieu. C'est méta tout ça.
C'est méta. Mais je pense qu'on va finir avec ça, à moins que vous ayez un mot de la fin à rajouter.
Ben,
des espoirs pour un spin-off.
Mais ben, comme disait, je crois que c'est Jean-Michel au premier épisode, je pense que c'est une bonne façon aussi de rappeler la fin, c'est qu'il disait que Hélène Després disait que toutes les fins, que ce soit la fin dans le livre ou la fin de la série, seront tous des fins légitimes. Et c'est à toi, auditeur, lecteur, spectatrice, auditrice, de choisir laquelle va te plaire et que c'est ton droit en tant que consommateur de pop d'avoir cette fin-là, d'y réfléchir, de faire ton introspection, de la rejeter, de l'accepter, mais que c'est quand même la fin qu'on a, puis c'est tout, puis c'est ça. Fait que...
Sur ce, finissons l'épisode. Merci à vous tous et toutes d'avoir là pour cette...
Merci à toi.
Ce part 2, très
c'était bien intéressant.
Éclairant. Oui, merci. Et merci aux auditeurs et auditrices à la maison qui nous écoutent religieusement chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pop en Stock. Bonne soirée.
Bonne soirée. I'm a bad.
Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Oui, madame, oui, monsieur. Sort de sentiments, d'émotions, des réservoirs jamais assez, qui se poussent 7 jours sur 7. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point qu'on besoin de mise en forme. Bébé, maman, ma papa, papa. Foutre le dawa dans l'appartement. Le power, le pot et la fête. Les voisins, voisines sont pas prêtes. Plein les mirettes, plein les papilles. Dos cambré comme un papy. Traversé par la magie du moment, elle est percutée comme une anguille. En coupe ta kin ta quai. Callie secours quelqu'un. Bonheur coupable sur le constat. Nous avons flingueur, flingueur.